Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, au moins 21 civils tués à Soumy, dans l'est de l'Ukraine. 13e jour de guerre et déjà 2 millions de réfugiés. Dans ce journal également, Éric Zemmour, accusé d'agression sexuelle et sexiste par 8 femmes qui témoignent à visage découvert. Et puis 800 lycéens dans les rues d'Ajaccio ce matin, manifestation pour demander des comptes après l'agression d'Yvan Colonna.
Juste après le journal, nos deux sujets focus du jour. Emmanuel Macron a promis hier de nouvelles mesures. Que peut-il vraiment faire? Et à 12h50, on passera au crible les propositions de chacun des candidats en la matière à 33 jours du premier tour de la présidentielle. Le sujet est forcément incontournable.
Notre question du jour, justement, sur RTL.fr, est hausse des prix du carburant. Pouvez-vous faire du covoiturage? Eh bien, vous dites non à 85%. Notre météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Et c'est encore bien ensoleillé sur les trois quarts du pays.
Exactement, sur l'est essentiellement, puisqu'on a une perturbation qui rentre dans le pays par l'ouest. Elle va donner un temps pluvieux entre la Bretagne et les Pyrénées. Maussade également encore avec quelques précipitations sur le Languedoc. Toujours nuageux avec quelques averses entre la Côte d'Azur et la Corse, mais partout ailleurs. Du grand beau temps, le tout sous des températures en hausse, globalement comprises entre 10 et 15 degrés et jusqu'à 17 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, donc Soumy, 350 km à l'est de Kiev, tout près de la frontière russe, la ville a été bombardée cette nuit. Antoine Comte a pu joindre pour RTL Ilia, qui vit sur place avant la guerre, avant de prendre les armes. Il était enseignant.
Il y a beaucoup de bombes d'avion ici à Soumy. C'est difficile parce qu'ils attaquent les gens civils. La première fois, c'était très effrayant. C'était les machines d'artillerie. Maintenant, ils utilisent les avions. Il y a quelques maisons qui ont été détruites totalement et il y a des morts. Bien sûr, il y a toujours peur de mourir. Maintenant, ça semble plus réel. C'est plus effrayant.
Bonjour Bénédicte Tassa.
Bonjour.
Dans cette seule ville de Soumy, au moins 21 civils auraient été tués.
Et du quartier résidentiel montré dans une vidéo par Dmitrio Siviski, le gouverneur de la région, il ne reste rien. On n'entend que le bruit des flammes dans un tas géant de gravats. Les sauveteurs sont encore à la recherche de survivants. Soumy, dont essaient de partir en bus des civils. Depuis ce matin, le corridor humanitaire est ouvert par les Russes vers le sud du pays. Un autre corridor devait être accessible à Marioupol, au sud cette fois, sur la mer d'Azov. Mais le ministre ukrainien de la Défense accuse les Russes de ne pas le respecter. Pour ce troisième essai, les femmes, les enfants, les personnes âgées n'ont pas pu partir de cette ville portuaire et l'aide humanitaire n'a pas pu être acheminée. Marioupol, où un enfant est mort de déshydratation, c'est dire l'urgence de cette évacuation.
Dans le même temps, Bénédicte, on a appris ce matin qu'un deuxième général russe avait été tué. Ça veut dire que la Russie a vraiment du mal?
Oui, c'est le général Vitali Gerasimov, c'est le chef d'état-major de la 41e armée russe. Il a été tué près de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Il avait combattu en Tchétchénie, en Syrie, en Crimée. Quant aux pertes globales russes, eh bien, le quotidien britannique Times rapporte aujourd'hui une note des renseignements russes qui comptabilise 10 000 morts parmi les soldats russes. Officiellement, le chiffre est arrêté à 498.
Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Autre chiffre à retenir avec ce conflit ce matin, ce cap des 2 millions de réfugiés franchis, ça y est, d'après l'ONU. 2 millions en seulement 8 jours, c'est du jamais vu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Des réfugiés qui, à partir d'aujourd'hui, vont pouvoir disposer d'un statut spécifique ici en France.
Absolument, c'est ce qu'on appelle une protection temporaire. Les réfugiés peuvent la demander dès aujourd'hui dans tous les pays de l'Union européenne. Concrètement, cela offre les mêmes droits et garanties que l'asile, droit de travailler, accès aux soins, au logement. Cette protection, elle est valable pour 6 mois et elle est renouvelable jusqu'à 3 ans. 5 000 réfugiés en provenance d'Ukraine se sont signalés aux autorités françaises depuis le début du conflit, avec une accélération massive des arrivées au fil des jours. Au tout début de la guerre, une dizaine de personnes arrivaient quotidiennement. Et pour la seule journée d'hier, le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 500 nouvelles entrées. La majorité est toutefois en transit vers des pays du sud de l'Europe, essentiellement des femmes, des enfants, une plus petite proportion d'hommes qui sont redirigés vers des hôtels ou chez des particuliers qui ouvrent leurs portes.
Et justement, si on veut aider ces réfugiés, on fait comment?
Eh bien, depuis ce matin, il est possible de se rendre sur un site internet spécialement dédié. Je m'engage pour lui l'Ukraine. Là, une multitude de missions vous sont proposées, accompagnement, traduction, hébergement. Le site vous mettra en relation avec les associations impliquées.
Merci à vous, Alice Moreno, pour toutes ces explications.
Dans l'actualité également, ces femmes qui accusent Éric Zemmour de violences sexuelles et sexistes.
8 femmes qui témoignent à visage découvert, Cindy Hubert. On précise qu'à ce jour, aucune plainte n'a été déposée.
Oui, toutes ces femmes avaient déjà témoigné, mais ce qui est nouveau, c'est que certaines s'expriment publiquement pour la première fois dans cette enquête signée Mediapart. Leurs profils se ressemblent, des journalistes stagiaires, jeunes attachés de presse, hôtesses d'accueil, maquilleuses. Elles accusent Éric Zemmour de les avoir embrassées de force ou bien de gestes déplacés, parfois jusque l'entrejambe.
Il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche.
Il me dit « vous allez me remercier autrement » et en fait là il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche.
Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi.
Les faits dénoncés s'étalent de 1999 à 2019. Certaines femmes n'ont rien dit pendant des années de peur de se griller au travail, disent-elles. D'autres en ont parlé à des amis, à une supérieure. Une journaliste du Figaro s'en était d'ailleurs émue directement auprès d'Éric Zemmour. Sa réponse, selon elle à l'époque, les stagiaires, c'est quand même fait pour faire des pipes et du café. Aujourd'hui, l'entourage du candidat continue de balayer ces accusations. Rien de neuf dans ces témoignages, soulignent ses proches, qui dénoncent un procédé grossier à 5 semaines de l'élection.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL, des révélations faites, et ce n'est sans doute pas un hasard, en ce 8 mars, journée des droits des femmes. La Fondation des femmes a envoyé à chacun des candidats à la présidentielle la facture des inégalités, 118 milliards d'euros chaque année, selon elle.
On a calculé ce coût avec des chercheuses et statisticiennes qui sont allées regarder ce que coûtent chaque année, par exemple, les violences conjugales en termes de dépenses de santé, de dépenses de justice, de dépenses de prison. C'est aussi une facture qui détaille le coût des inégalités professionnelles entre les écarts de salaire, le plafond de verre. Et c'est enfin masculinité, on dit toxique, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, les inégalités et les violences, en réalité, c'est d'abord et avant tout un coût humain et des souffrances pour les femmes, mais c'est aussi un prix que paye toute la société pour ce système qui est inégalitaire.
Anne-Cécile Melfer, la présidente de la Fondation des femmes, joint pour RTL par Tom Lefebvre, selon un sondage BVA réalisé en exclusivité pour RTL, 7 Français sur 10 considèrent aujourd'hui que l'égalité est atteinte dans la sphère privée, 41% seulement au travail.
Hier, lors de son premier déplacement de candidat, Emmanuel Macron a promis la suppression de la redevance télé s'il était réélu.
3,9 milliards d'euros chaque année, ce n'est pas rien. On finance ça comment, William Galibert ?
Bonne question, à laquelle pour l'instant l'équipe de campagne du président, sollicitée par nos soins, ne veut pas donner de réponse. On nous dit « ne vous inquiétez pas, tout cela sera complété et précisé plus tard ». On n'y voit pas beaucoup plus clair. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'Emmanuel Macron promet de garantir l'audiovisuel public. Concrètement, ça voudrait dire un financement assuré, voté sur des périodes de 4, 5 ou 6 ans. C'est déjà ce qu'on fait pour nos armées, par exemple, avec des lois de programmation. Et donc là, il faudrait multiplier les milliards par le nombre des années. Et on en revient à notre problème de financement. Mais de manière immédiate, Emmanuel Macron, lui, préfère mettre en avant le pouvoir d'achat qui serait rendu aux Français. 138 euros par foyer et par an. 138 euros, en ce moment, c'est l'équivalent de 2 beaux pleins de carburant.
William Galibert du service politique de RTL. À partir de lundi, vous le savez, le masque ne sera plus obligatoire à l'intérieur. Ce sera le cas aussi au bureau. La ministre du Travail annonce la fin du protocole en entreprise pour le 14 mars. Fini donc le masque, mais terminé aussi les règles de distanciation et les restrictions à la cantine. Des annonces faites alors que le taux d'incidence repart à la hausse. Le phénomène est assez net dans les départements où les enfants ont repris l'école il y a 15 jours. Mais élément rassurant, le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser. Les personnels des EHPAD Orpea en grève aujourd'hui pour réclamer de meilleures conditions de travail. Après les révélations de ces dernières semaines, Olivier Véran lui annonce une vaste campagne de contrôle. Tous les établissements, qu'ils soient privés ou publics, qui passeront d'ici 2 ans. Actuellement, seuls 10% des 7500 EHPAD de France sont contrôlés chaque année.
À Ajaccio, plusieurs centaines de lycéens ont manifesté ce matin.
Et ils réclament à leur tour des explications après la violente agression dont a été victime la semaine dernière Yvan Colonna. Un rassemblement qui a dégénéré, Étienne Baudu.
Oui, une manifestation avec toujours la même banderole accrochée aux grilles de la préfecture et écrit en Corse « État français assassin ». Et puis, des jets de bombes agricoles ont atterri dans les jardins du palais Lantivy et des cailloux ont été lancés en direction des forces de l'ordre qui ont répondu avec des grenades lacrymogènes. Pas de dégâts ni de victimes, mais on le voit bien, une tension qui sur l'île ne faiblit pas. Pour Isandre, 20 ans, les explications sur l'agression d'Ivan Colonna ne le satisfont pas.
Qu'est-ce que vous voulez ? À un moment donné, c'était sûr que ça allait finir comme ça. C'était obligé. Un jour ou l'autre, ça devait éclater. Ça éclate aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé, c'est totalement inadmissible. De mon point de vue, je pense que si ça aurait été quelqu'un d'autre, pas un Corse, ça ne serait pas passé comme ça, loin de là. C'est sûr, il faut manifester, il faut montrer qu'on est là. Nos parents et nos grands-parents, ils l'ont fait, maintenant c'est à nous de reprendre le flambeau.
Et c'est bien le sentiment qu'avançaient les Corses plus âgés qui assistaient sur les trottoirs à la manifestation. C'est la relève qui arrive, cela fait 45 ans que ça dure.
Étienne Baudieu, Ajaccio pour RTL. Et puis plus de peur que de mal, a priori pour Kylian Mbappé, l'attaquant star du PSG devrait bien être sur le terrain demain soir face au Real pour ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le club en tout cas fait tout pour, Philippe Sanfourche.
Oui, un nouveau point médical sera fait dans la journée. D'ici là, tous les staffs concernés s'activent pour résorber le gros hématome sur la cheville gauche de l'attaquant parisien. Alors la première bonne nouvelle de la journée, c'est qu'il est bien dans l'avion qui doit atterrir d'une minute à l'autre à Madrid, où on ne parle évidemment que de ça. Ce matin, le quotidien Marca a affiché en pleine page de une la photo de l'impact du pied d'Idrissa Gueye sur celui du buteur vedette avec ce titre. Mbappé arrive blessé dans l'enfer de Bernabeu, le stade du Real où le PSG doit s'entraîner ce soir une dernière fois à 18h. Alors, avec ou sans Kylian Mbappé, la tendance serait plutôt de le laisser au repos jusqu'au dernier moment. La décision de le faire jouer ou non sera de toute façon prise demain, après consultation du staff médical et du ressenti du joueur qui, après s'être fait très peur, souhaite désormais tout faire pour participer à la fête.
Philippe Sanfourche, envoyé spécial d'RTL à Madrid, Real PSG. Ce sera bien sûr à suivre demain soir sur RTL. RTL Foot spécial Ligue des Champions, c'est dès 20h45.
Et ce qui est incroyable, c'est que Gueye a été la cible des réseaux sociaux hier, qui l'accusait d'avoir blessé
volontairement
exactement Mbappé, et Mbappé a été obligé de faire un communiqué. Juste après le journal, donc on échange, on décrypte sur le prix de l'essence. Emmanuel Macron a promis hier de nouvelles mesures, mais qu'est-ce qu'il peut vraiment faire? Première question, à tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Sur les prix de l'énergie, si je puis dire, le président n'a pas attendu le candidat. Le gouvernement a pris déjà beaucoup de mesures et on doit les poursuivre. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir améliorer ? L'accompagnement sur l'essence. Ça fait partie de ce plan de résilience que le Premier ministre est en train de finaliser, fera avec le gouvernement. Il y aura une mesure supplémentaire sur la partie essence.
C'était hier soir à Poissy, lors de son premier déplacement de candidat, le président Emmanuel Macron a promis de nouvelles aides, une nouvelle aide au moins pour faire face à la flambée des prix de l'essence. Le gouvernement y travaille. Alors à quoi faut-il s'attendre? Quels sont les leviers d'action possibles? C'est le premier débat de RTL Midi. Avec nous, Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Bonjour Marie-Bénédicte.
Bonjour.
Christophe Bourreau du service économie.
Bonjour.
Bonjour Christophe. D'abord, les pistes avec vous justement, Christophe. Un nouveau chèque par exemple?
Alors oui, de toute façon, il y a trois pistes actuellement à l'étude et effectivement, le chèque fait partie de ces pistes sérieuses. On le rappelle, une aide de ce type d'un montant de 100 euros a déjà été versée entre décembre dernier et février. Près de 38 millions de personnes ont été concernées, dont le revenu est inférieur à 2000 euros par mois, que vous ayez ou non d'ailleurs une voiture. En tout cas, ce nouveau chèque inflation est à l'étude. Reste que c'est une solution à court terme. L'État ne pourra pas renouveler l'opération plusieurs fois, qui est très coûteuse. 3 milliards d'euros. Or, on le sait, bien le coût du pétrole, de l'énergie, risque de durer des semaines, voire des mois. Il y a une autre piste envisagée, qui est l'aide ciblée, alors cette fois-ci aux professionnels qui souffrent le plus. On pense aux ambulanciers, taxis, marins-pêcheurs, agriculteurs. Il y a beaucoup de PME en France qui sont vraiment en grosse difficulté à cause de la flambée du prix du carburant, notamment parmi les petits transporteurs, littéralement étranglés par cette flambée des prix. Le Premier ministre reçoit d'ailleurs les partenaires sociaux, patronaux et syndicats qui représentent les grandes filières industrielles et agricoles cet après-midi à Matignon. Dans ce cas, cela pourrait passer par exemple par des mesures fiscales avantageuses, notamment en matière de baisse des charges, voire d'abandon du paiement de certaines d'entre elles, qu'elles soient fixes ou obligatoires. Et puis, il y a une troisième option, alors là, qui est souvent avancée, c'est un peu le serpent de mer, ce qu'on appelle un chèque carburant sur le modèle du ticket restaurant. Ce serait distribué par les comités d'entreprise et cela permettrait permettrait de cibler les salariés qui prennent leur voiture pour aller travailler. Bon, seul bémol, la mesure serait un peu compliquée à monter à court terme, surtout auprès d'entreprises déjà en difficulté financière et économique.
Et ça, Marie-Bénédicte, ce serait pour quand ?
Alors, vous l'avez entendu dans l'extrait qu'on a diffusé tout à l'heure. Hein. Hier soir, quand Emmanuel Macron a mis sa casquette de président, il a parlé des jours qui viennent. Mmh. Alors en fait, ce à quoi on peut s'attendre, comme le disait Christophe, aujourd'hui Jean Castex, le Premier ministre, réunit les représentants de la filière, les organisations syndicales et patronales. Là, il y a une première concertation sur les aides pour faire face au prix de l'essence. Et puis, deuxième phase, il y a Emmanuel Macron qui va aborder le sujet avec ses collègues européens lors du sommet de Versailles jeudi et vendredi. C'est un sommet qui est fait pour accorder les violons en quelque sorte hein, sur la situation internationale. Mais il parlera de ce sujet des carburants dans ce cadre-là aussi. Et donc, on peut s'attendre à ce que des annonces soient faites au plus tôt à l'issue de ce sommet qui se tient à Versailles, donc en fin de semaine.
D'un mot, Christophe, le gouvernement a déjà pris des mesures.
Oui, puisque à partir d'avril, donc dans dans 15 jours, hein, le barème de l'indemnité kilométrique va être relevé de 10%. Bon, c'est très complexe, mais grosso modo, ça va concerner 2,5 millions de ce qu'on appelle les gros rouleurs, ceux qui font beaucoup de kilomètres pour aller travailler. On pense notamment aux infirmières, aux représentants de commerce. En moyenne, le gain sera de 150 euros par personne et par déclaration d'impôt. Et puis, autre mesure, cette fois du privé. Souvenez-vous, Total Energy, le PDG de l'entreprise, Patrick Pouyanné, l'avait annoncé sur RTL le 9 février dernier, une remise à la pompe dans des stations situées en zone rurale.
Pourquoi les zones rurales? Parce que c'est là qu'il y a les populations pour lesquelles la voiture est le bien le plus indispensable. Il faut amener les enfants à l'école, il faut aller travailler. Et donc là, ils auront une remise en caisse, donc 10 centimes par litre. Les prix à la pompe resteront les mêmes, mais à la caisse, ils verront une déduction d'un montant de 5 euros pour 50 litres, 2 euros pour 20 litres.
Voilà, cette mesure concerne les communes de moins de 6 000 habitants et elle sera effective jusqu'à mi-mai prochain.
Le paradoxe, Christophe, c'est que l'État encaisse davantage de recettes en ce moment, puisque les taxes sur un litre d'essence sont très importantes, à 2,45 euros ou 2 euros. Mais est-ce que on pourrait imaginer de baisser tout simplement les taxes? Ça représente combien les taxes sur 1 euro?
Pascal, c'est ce que proposent différents candidats et on va en parler juste après la pub, c'était tout prévu.
C'est un bon teasing.
Mais c'est ça qu'il faut faire, tout simplement.
Oui, on y arrive, chaque chose en son temps.
12h49, merci beaucoup.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Et comme promis, on continue à parler des prix de l'essence, sujet éminemment sensible, bien sûr, à 33 jours du premier tour de la présidentielle. Alors, qui propose quoi? Tous les candidats ou presque ont un avis sur la question. Marie-Bénédicte, on va commencer avec ceux qui proposent tout simplement de supprimer les taxes.
Alors, de les baisser, hein, plutôt que les supprimer, parce que bon...
Ça serait bien, supprimer. Je vote pour Amandine. Je vote immédiatement pour Amandine.
Ouais, alors, il y a notamment Marine Le Pen et Anne Hidalgo, parce que leur argument, c'est que il y a des endroits où les gens peuvent absolument pas se passer de leur voiture, que donc l'essence c'est un produit de nécessité et que eh bien il faut baisser les taxes sur ces produits de nécessité. Alors pour Anne Hidalgo, la candidate socialiste, à court terme, c'est la seule mesure efficace. Et elle l'avait dit sur l'antenne de RTL dès octobre dernier.
S'il n'y a pas 36 000 leviers face à une situation aussi exceptionnelle, le levier qu'ont les États, c'est le levier de la TVA.
Alors pour elle, c'est une mesure transitoire. Pour Marine Le Pen, elle, il faudrait le faire de toute façon. Et ça serait, elle a même fait le calcul que ça entraînerait, sur l'économie que ça entraînerait pour un automobiliste. Écoutez.
Avec moi, pour un plein de 40 litres, il y aura 8 euros de moins de prix à la pompe, car je vais faire passer la TVA de 20 à 5,5%.
Et en plus, Marine Le Pen propose de supprimer les augmentations de taxes qui avaient été décidées en 2017 et en 2018, il y a quelques années.
Christophe, on pourrait se dire que c'est assez logique, d'autant que Pascal le faisait remarquer, plus les prix montent, plus que l'État engrange finalement d'argent en taxes. Non,
mais c'est très séduisant, puisque sur un plein effectivement de 40 litres, vous économisez 8 euros, c'est 18 à 20 centimes par litre environ, donc, et c'est immédiat. Donc ça, c'est le gros avantage, mais cette mesure a été écartée plusieurs fois par le gouvernement. Pourquoi ? Parce que le gouvernement explique que finalement, c'est hyper contre-productif. Ils ont estimé qu'une baisse de 1 centime des prix à la pompe, grâce à une baisse des taxes, eh bien, ça représente 1,5 milliard d'euros pour les finances publiques. Donc en gros, si on avait baissé...
Oui, mais comme ça augmente de l'autre côté.
Si on avait baissé, par exemple, il y a 3 semaines, les taxes de 10 centimes, ça aurait coûté 5 milliards d'euros.
Oui, mais comme ça augmente, comme le prix augmente. Alors, le prix augmente du litre. Donc d'un côté, effectivement, vous récupérez ce que vous perdez de l'autre.
Là, c'est faire redistribuer.
Voilà, faire redistribuer. Mais là, c'est ce qu'on appelle la TIPP flottante, qui a déjà existé, mais qui a fait.
J'ai jamais rien compris à la TIPP flottante. Si vous.
Bah, en gros, plus, non, mais... on en reparlera, mais en gros, plus le prix du brut augmente, plus les taxes diminuent. Voilà, on passe par exemple de 60 à 55%. En revanche, lorsque les taxes, elles, lorsque le prix du brut baisse, eh bien les taxes augmentent. Sauf que ça s'est passé sous le gouvernement Jospin. Quand ça augmente et que les taxes baissent, eh bien là, tout le monde est d'accord. Mais quand ils font les remontées, là, personne n'est d'accord. Donc c'est un système qui est juste, mais qui est difficilement applicable, surtout en période électorale.
Marie-Bénédicte, parmi les candidats, il y a aussi ceux qui veulent plafonner les prix.
Oui, bah on retrouve notamment là-dessus Jean-Luc Mélenchon. Il voudrait qu'on bloque les prix au niveau d'avant leur flambée. Alors, on ne sait pas exactement où il situe ce niveau.
1,80
et quel est le prix de référence. Alors, lui, il n'est pas aussi précis. 1,80, c'est Éric Zemmour qui dit ça, parce que lui aussi, c'est une des mesures qu'il propose, hein, bloquer à partir de 1,80. Et Jean-Luc Mélenchon dit c'est faisable, on l'a bien fait pour le gel hydroalcoolique et les masques. Alors, en revanche, lui, il est tout à fait contre une augmentation des taxes. Parce qu'il dit, on le retrouverait sur notre feuille d'impôt.
Et ça a déjà été fait sous le gouvernement Bérégovoy. Oui, Bérégovoy, Michel Rocard. Donc, pendant la guerre du Golfe, où pendant 5 semaines, les prix avaient été gelés. Donc, ça, c'est tout à fait faisable. Et il y a même un article de loi qui le permet. Là encore, c'est aussi les opposants disent, mais de toute façon, ce que l'on récupère d'un côté, les automobilistes le payent de l'autre. Donc, c'est un petit peu le problème de ce genre de mesure.
Pourquoi, à 1,80, l'automobiliste, il y gagne.
Oui, mais le gouvernement, il perd. Donc, après, est-ce qu'ils vont le récupérer d'une autre façon, sur les impôts, etc. Oui. C'est le débat qui est toujours lancé. La Cour des comptes avait estimé que, lorsque ça avait été appliqué en 90, les recettes avaient été de moins 2,7 milliards d'euros. Donc, on voit mal le gouvernement se passer d'autant d'argent, surtout en ce moment où les caisses.
Donc, une fois qu'on a tout dit, ça sera quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Pas grand-chose.
Peut-être
on va payer plus cher.
Oui. Ouais. De toute façon, il faut s'attendre à ce que les prix augmentent, hein, c'est sûr.
Bah, écoute, belle synthèse, on a parlé pendant 10 minutes, vraiment.
c'est la conclusion.
On est content, donc il n'y a rien à faire, on va payer toujours aussi cher et on aura peut-être un chèque carburant. Non, mais c'est intéressant. 12h57, on va faire réagir les auditeurs.
Prendre votre vélo, Pascal.
Mais je pense que c'est une solution à laquelle je pense. Trottinette!
Ah, arrêtez, c'est dangereux.
Ah bah tout est dangereux.
C'est vous qui êtes distrait.
Je suis distrait.
Un peu.
12h. Vous savez que c'est la journée internationale des droits de la femme.
Des droits des femmes, s'il vous plaît.
Si vous préférez, effectivement. Et bien, nous allons parler avec les auditrices. Parce qu'il n'y a pas d'auditeurs aujourd'hui. Voilà, j'ai décidé. 12h57, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, bien sûr, ce 13e jour de guerre en Ukraine. Au moins 21 civils ont été tués la nuit dernière à Soumy. C'est dans l'est du pays, tout près de la frontière russe. L'un des points de passage d'un des couloirs humanitaires. Le président ukrainien Zelensky dénonce des promesses non tenues des Occidentaux.
13 jours. Cela fait 13 jours qu'on entend des promesses. 13 jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera. Mais la responsabilité pour cela repose aussi sur ceux qui n'ont pas été capables de prendre une décision en Occident depuis 13 jours. Sur ceux qui n'ont pas protégé le ciel ukrainien des assassins russes.
Des Ukrainiens qui continuent de fuir le pays. L'ONU annonce ce matin que le cap des 2 millions de réfugiés a été dépassé. 2 millions en 8 jours, c'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe. Dans l'actualité également, la fin du protocole sanitaire en entreprise sera pour lundi, comme la fin du masque en intérieur. C'est ce qu'a annoncé ce matin la ministre du Travail. De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce une vaste campagne de contrôle dans tous les EHPAD de France, public ou privé. Tous seront contrôlés d'ici 2 ans. Actuellement, seuls 10% des 7500 EHPAD de France font l'objet de contrôles chaque année. La météo avec vous, Peggy.
Oui.
On a eu bien froid ce matin. Okay, mais oui. Bonne nouvelle, les températures remontent cet après-midi.
Degré. Oui, c'est vrai qu'il y avait de nombreux gelées ce matin, mais je vous promets les températures à deux chiffres cet après-midi, ce qui est bien. 10 à Metz, 11 à Lille, 12 à Rennes, à La Rochelle, à Bastia, 14 à Paris, ainsi qu'à Grenoble, 15 degrés à Limoges, Toulouse, Marseille, Tours, 16 à Bourges, et même 17 degrés prévus cet après-midi à Perpignan. Alors côté ciel, on a une perturbation qui rentre dans les terres par l'ouest avec des pluies intermittentes entre la Bretagne et la Vendée cet après-midi, des pluies plus continues entre l'Aquitaine et les Pyrénées, de la neige même dès 1300 mètres. Ça reste toujours nuageux avec des averses et du vent sur le Languedoc et de la neige sur les Cévennes. Et puis c'est toujours un peu plus nuageux aussi avec quelques gouttes entre la Côte d'Azur et la Corse. Mais partout ailleurs, sur les trois quarts est du pays, il fait encore très beau, un beau soleil, on en profite.
On en profite parce que demain ça se couvre.
Exactement, avec plein de grisailles, des grisailles assez compactes sur le nord-ouest, le long de la Garonne également. Toujours des entrées maritimes, donc des nuages sur le Languedoc avec quelques gouttes. Et sur l'est du pays et les Pyrénées, là il fera beau le matin. Dans l'après-midi, ces grisailles, elles vont se dissiper, mais le ciel restera chargé entre la Normandie, les Pays de la Loire, le centre en allant vers le Languedoc. Ce sera plus lumineux tout de même sur le sud-ouest malgré un léger voile. Et en allant vers l'est, les éclaircies seront de plus en plus belles. Tout ça sous des températures en hausse pour les minimales. Moins de gelées, mais il y en aura quand même, surtout sur le nord-est. Et pareil, les maximales vont remonter de 12 à 16 degrés, jusqu'à 18 même dans le sud.
Je crois que je préférais le beau et froid. Merci Peggy.
Avec plaisir.
Merci Peggy, merci Amandine et merci à Ludovic van de Kerkhoff qui assurait la rédaction en chef de ce 12h30. Dans une seconde, nous sommes avec Stéphanie.